wins 100 points out to the West.
Radio X Files avec Christian Page et Camille.
Oh my God.
Radio X.
On va en profiter pendant qu'on a une minute de plus, même quelques secondes de plus, Christian, ce soir. Quelle belle surprise! Ensemble, on débute la semaine. Comment vas-tu? Oui. T'as passé un beau week-end?
Oui, un très bon week-end. Et puis, heureux de te retrouver en ce début de semaine, le début de notre troisième semaine des Radio X-Files, suivant la nouvelle version. Donc, une version quotidienne maintenant.
C'est le troisième lundi OVNI. C'est comme ça que je l'ai rebaptisé dans ma tête.
Effectivement, notre sujet de ce soir sera, en fait, toute l'émission sera consacrée au phénomène des ovnis, des extraterrestres. Et notre sujet de ce soir, c'est un sujet que j'avais abordé en février 2019. Ça fait quand même un petit bout de temps, là,
ben
en février 2019. Avec Yannick, on avait reçu à l'émission un bon ami à moi, Olivier Reynaud, qui écrit sous le nom de plume de Richard Nolan. Et on avait abordé ensemble plusieurs thématique de la question des ovnis, mais on avait notamment abordé la question, la thématique des hommes en noir.
Oh.
Donc, qu'est-ce que c'est que les... Bon, évidemment, dès que je dis les hommes en noir, la grande majorité de nos auditeurs ont comme référence le film avec Will Smith, en fait, la série de films, mais le premier, hein, qui avait beaucoup surpris, le film avec Will Smith, où des agents du gouvernement, tout de noir vêtus, chasse des extraterrestres. Mais il faut savoir que cette image qui est véhiculée dans le film n'est pas essentiellement de la science-fiction. Il existe dans l'univers des ovnis une croyance voulant que les autorités ou peut-être même les extraterrestres eux-mêmes soient engagés dans des campagnes de menaces, de dissuasion pour faire disparaître des preuves ou faire taire des témoins. Et quand on avait abordé cette question-là avec Olivier Reynaud, Richard Nolan, on avait abordé quelques histoires, puis on avait abordé le mythe en général, mais on n'avait pas vraiment abordé l'origine du mythe et comment il s'est inséré dans le folklore ufologique. Et à plusieurs reprises, des gens m'ont écrit ces dernières années en me disant « Ouais, bon, les hommes en noir, ça vient d'où? Comment ça a commencé? » Alors j'ai décidé ce soir d'aborder cette question « D'où vient ce phénomène des hommes en noir? » C'est pas apparu du jour au lendemain, et c'est un phénomène qui s'est beaucoup transformé. Hein? À l'origine, les hommes en noir n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Parce que le phénomène des ovnis, et c'est fascinant le phénomène des ovnis, même pour les gens qui ne croient pas aux visites extraterrestres, c'est un phénomène qui est extraordinaire parce que c'est un phénomène où on voit le mythe se transformer selon les décennies en fonction de la science-fiction, en fonction des croyances populaires, comment ces croyances-là s'altèrent et comment elles vont influencer le phénomène des ovnis. Par exemple, rappelle-toi, la semaine dernière, on a parlé de l'histoire de Valensole. D'ailleurs, on m'a fait remarquer que Valensole, sur le site de Radio X-Files, n'était pas écrit de la bonne façon. Là, c'était écrit Valensole, V-E-N, là, alors que c'est Valensole, V-A. Là. Je passe le message, Camille,
merci.
Peux éventuellement faire une petite modification.
On
m'a fait cette remarque-là.
C'est bon.
Parce que moi, même si des gens m'écrivent, hein, chaque semaine, je reçois des courriels de gens qui me disent « On ne peut pas écouter, la rediffusion, il y a ceci ou cela. Il faut que les gens sachent que Christian Page n'a absolument aucun contrôle sur ce qui se passe sur le site de Radio X-Files. »
Et donc, réglons quelque chose ensemble, Christian. Non seulement toi, tu es l'animateur de l'émission et c'est moi qui s'occupe de faire des fautes d'orthographe, désolé. Mais aussi, après ça, il y a l'autre étape qui est le téléchargement des émissions intégrales. Dans la mesure du possible, j'essaie de tout mettre sur notre page Facebook. Mais tout ce qui est Spotify, tout ce qui est téléchargement, après ça, pour avoir le MP3 ou le Wave de notre émission, c'est pas non plus de mon ressort. Et on a beaucoup, mais beaucoup, beaucoup, depuis le changement du site Internet, de demandes et de plaintes face à ça. Et malheureusement, ce n'est pas dans ma cour. Alors, je veux l'adresser.
C'est ça, le tout doux, ça oui. Tombe dans un univers parallèle.
C'est ça, c'est pas nous. Donc, si vous voulez vraiment avoir un éclaircissement ou du moins une avancée face à ça, je vous invite tout le monde pour toute la programmation de Radio X à écrire à support@commercialradiox.com. Notre technicien va prendre connaissance de vos messages parce que moi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec ça. J'ai pas de suivi. J'ai aucune idée. Je suis aussi dans le néant, tout comme vous, les auditeurs.
C'est un peu pareil pour moi quand les gens m'écrivent. Je dis, oui, mais là, on m'écrit à moi. Moi, je suis l'animateur de l'émission. Je n'ai absolument aucun contrôle sur le contenu. Mais au moins, les gens le voient, les gens l'entendent. On vous lit.
Oui,
on vous lit
on vous
et
voit.
On transmet votre on vous lit, on vous voit et on transmet le message aux personnes responsables en espérant que les choses s'améliorent, donc, se réparent d'elles-mêmes.
On vient d'envoyer un petit satellite dans l'univers, on verra si quelqu'un le détecte. C'est pas mal.
D'ailleurs,
ça.
C'est amusant puisque tu me parles de satellite, je me permets de faire un aparté.
Oui.
Au cours du week-end et dans les derniers jours de la semaine dernière, c'était à partir de jeudi ou vendredi, beaucoup de gens, tant des gens de la région de Québec que de la région de Montréal, m'ont écrit pour me dire vers 9h30 à peu près, on a vu dans le ciel une ligne lumineuse très étrange. Était-ce un ovni? Non, je vous rassure, c'est un train de satellites qui a été lancé la semaine dernière par SpaceX, la compagnie d'Elon Musk. Et les satellites, les SpaceLink, c'est la volonté d'Elon Musk éventuellement de fournir de l'Internet partout sur la planète. Donc, il lance comme ça, de manière plus périodique, des trains de satellites et éventuellement l'objectif est de créer un réseau qui pourra être perçu à n'importe où sur la planète, qu'on soit au milieu du désert du Sahara ou quelque part perdu dans l'océan Atlantique, on pourra éventuellement se brancher sur Internet grâce à ce réseau de satellites SpaceLink. Donc, la semaine dernière, là, dans le dernier jour, jeudi ou vendredi, ou ce week-end, si vous avez levé les yeux au ciel vers à peu près 21h30 et avez vu cette traînée lumineuse dans le ciel, parce que de loin, ça a l'air effectivement d'une bande de lumière, mais si on se rapproche, on voit que c'est tout un train de satellites, les uns derrière les autres. Donc, non, ce n'étaient pas des visiteurs d'outre-espace, mais bien les satellites d'Elon Musk.
Ce ne sera pas encore une fois ce mois-ci qu'on en verra.
Non, c'est pas là. Mais là aussi, pour en revenir à nos histoires d'hommes en noir, j'étais en train de te dire, je reprends le fil, je sais, je fais toujours des espèces de détours épouvantables. Mais la semaine dernière, quand on a parlé de Valençon, je te parlais que comment le phénomène des ovnis évolue, et il évolue avec tous ces éléments mythologiques, hein? Les hommes en noir, les soucoupes, les extraterrestres que les gens voient aujourd'hui n'ont plus tout à fait le même aspect physiologique que ceux qu'on observait dans les années 1950. Les hommes en noir des années 50 n'étaient pas non plus ce que l'on voit aujourd'hui. Le phénomène des soucoupes aussi a évolué à une époque, dans les années 40 et 50, puis j'engloberais même les années 60. Notre science-fiction nous décrivait des visiteurs de l'espace dans des machines très tôles et boulons.
Oui.
Et les objets que l'on observait dans le ciel, les objets même lorsqu'ils ont commencé à atterrir, parce qu'il y a eu une période où les ovnis n'étaient que dans le ciel, dans les années 40, jusque, je te dirais, à partir de 1947, début du phénomène contemporain, jusque 1952-53, il n'y avait pas vraiment d'atterrissage. Mais à partir de 1953 et 54, et principalement à partir de l'automne 1954 en France, qui vont un peu ouvrir le bal avec ça, il va y avoir des atterrissages d'ovnis. Et c'est la période qu'on va appeler, dans le milieu des ovnis, la période des soucoupes en panne. Donc, on a des soucoupes qui semblent très tôles et boulons, qui s'opposent avec des personnages qui sortent de leur véhicule, qui inspectent le véhicule comme si c'était une voiture qui était en panne. Et puis, lorsqu'ils sont surpris par des gens, des observateurs, il remonte dans le véhicule qui décolle très rapidement.
Ah, fait qu'il n'est pas brisé.
Il n'est pas brisé. C'est un petit check-up qu'on faisait. Donc, on voit que et le phénomène, aujourd'hui, on ne voit plus ça, ce type d'atterrissage, des bonhommes qui sortent, semblent inspecter leur véhicule. J'ai présenté avec Marceau, durant au moment où les émissions de X-Files étaient, Radio X-Files étaient les vendredis, j'ai présenté quelques classiques, dont l'un, je me rappelle, 1964, Socorro, Nouveau-Mexique, où un policier avait été amené sur la Mesa. La Mesa, c'est la partie, on a tous vu des films, là, un peu dans le désert, avec des petits buissons là, qui roulent quand ils ventent. Ça, c'est la Mesa dans les États un peu désertiques américains, que ce soit le Colorado ou l'Arizona. Et donc, lui se trouve au Nouveau-Mexique et, bon, il avait été surpris par une explosion. On est en fin d'après-midi, il se rend sur place. Il va grimper même avec sa voiture sur la Mesa. Donc, il s'avance. Le sol est dur, mais c'est quand même un endroit désertique. Il y a quelques buissons à gauche et à droite. Et il va voir l'une de ses machines posée au sol sur des béquilles avec, encore une fois, des bonhommes autour qui semblent inspecter le prototype même de la soucoupe en panne. Et le temps qu'il prenne le microphone de son autopatrouille, qu'il a appelle ses supérieurs. Les bonhommes ont déjà remonté dans l'objet qui décolle avec en faisant un bruit épouvantable. Donc, on voit bien cette illustration qui est assez proche de notre science-fiction et de l'image que l'on se fait. Si ce sont des machines, tôles et boulons, bien sûr, il doit y avoir des pilotes à bord. Ils doivent se poser de temps en temps. Et bien sûr, il est bien possible qu'à quelques reprises, leur véhicule ait éprouvé des difficultés. Donc, c'est la période des soucoupes en panne, même si fondamentalement, on ne sait pas si les bonhommes qu'a observé Laoni Zamora, ce policier, ou Maurice Mas, dont on a parlé la semaine dernière avec l'affaire de Valensole, si leur soucoupe était en panne ou s'ils étaient simplement en mission d'exploration. Mais quoi qu'il en soit, ça donne un peu cette impression-là. Mais tout ça pour dire que le phénomène des ovnis, on ne peut pas le nier, il évolue au rythme de notre science-fiction. Que le phénomène soit réel ou non, je ne me prononce pas là-dessus, mais il est clair qu'on a une dynamique sociale attachée au phénomène ovni, et cette dynamique sociale, elle est la vision que l'on se fait, de l'extrapolation que l'on se fait de ces visiteurs de l'espace, tant à travers la littérature que dans la science-fiction, et qui est transposée, bien sûr, par les témoignages. Donc, ce soir, dans notre deuxième partie d'émission, je sais, j'ai fait un grand détour, là, mais dans notre deuxième partie d'émission, on va aborder l'origine de ce phénomène des hommes en noir, comment il a évolué, comment il est arrivé, comment on le perçoit encore aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir, quand on parle de la question du phénomène des ovnis, il y a des règles. C'est un univers qui a ses propres règles. Et tu dois respecter ces règles-là si tu veux jouer. C'est un peu comme si toi, tu veux jouer au baseball, tu t'arrives dans l'équipe, tu dis, bon, écoute, je veux jouer. Bon, on t'explique les règles au départ. Les règles sont... Il y a trois fois qu'on t'envoie la balle, tu la frappes pas, puis elle était frappable, entre guillemets, t'es retiré. Là, je sais que tu pourrais te dire, mais pourquoi? Pose pas de questions, c'est des règles, c'est comme ça. Un coup que t'as frappé la balle, tu dois courir sur les coussins, et quand tu reviens au marbre, tu comptes un point. Ah, mais pourquoi? Pourquoi j'ai pas un point à chaque fois que je touche les coussins? Parce que c'est ça les règles, on questionne pas. Donc, tu vois, au baseball, on a nos règles, mais dans l'ufologie, on a nos règles aussi. Et ces règles-là, si on ne les respecte pas, si on les contredit, si on met un bémol sur ces règles, on va être éliminé et retiré de la partie. J'ai été retiré de la partie au milieu des années 90. Oui, parce que j'ai commencé à questionner ces fondements-là. Parmi les grands fondements que l'ufologie maintient, là, c'est des dogmes. Je le dis bien, là, des dogmes. Le premier dogme de l'ufologie, c'est... les autorités nient l'existence des ovnis.
Ah, OK.
Ça, c'est un dogme. Si tu dis, je suis pas sûr, s'ils maintiennent ça. Pourtant, quand on regarde dans la littérature, l'ouverture des dossiers, encore récemment, il y a eu des réunions au Congrès américain, on a parlé de ça, des vidéos qui circulent. Quand le projet Blue Book a déposé, d'ailleurs, on va se faire à un moment donné une émission sur le projet Blue Book, parce que beaucoup de gens m'écrivent à ce sujet-là. Donc, cette commission d'enquête qui est extraordinaire. Donc, quand Blue Book a fermé ses livres en 1969, c'était une commission d'enquête qui s'intéressait aux ovnis au départ, ça s'était appelé le projet SIGN, qui avait commencé à enquêter sur les ovnis dès l'hiver 1947. En fait, en décembre 1947, l'organisation est née sous le nom de projet SIGN. Et ensuite, en 1949, le projet SIGN est devenu le projet Grudge. Et en 1951, fin 1951, début 1952, le projet Grudge est devenu le projet Blue Book. Et le projet Blue Book s'est terminé en 1969. Donc, 22 ans d'enquête quasi continue sur la question des ovnis. Et quand le projet Blue Book a fermé ses livres en 1969, les conclusions étaient publiées en 1970, les conclusions étaient, nous avons enquêté sur 12 618 observations d'OVNI, et de ce nombre, 701 sont demeurées non identifiées.
Okay.
Ben ça, si c'est pas reconnaître l'existence des OVNI, je sais pas ce que c'est. T'sais, je veux dire, on nous dit on a enquêté sur tant, puis il y en a tant qu'on n'a pas identifié. Donc, ce sont des OVNI. Alors, quand les ufologues disent, les autorités nient l'existence des OVNI, personnellement, j'avoue que je ne sais pas où ils vont chercher ça. mais ça fait partie d'un dogme. Ne conteste pas ça. Fait que là, si tu dis oui, mais tel élément, publication de tel document, jamais, à aucun moment, on a vu les autorités nier l'existence des ovnis. Mais si tu dis ça, ben, tu vas être mis hors de partie.
Parce qu'il y en a qui, dans leur tête, ne pas le dire, c'est nier aussi, en quelque sorte.
Ouais, c'est
que
ça.
La ligne est mince.
Je pense que ce que les ufologues veulent dire lorsqu'ils disent les autorités nient l'existence des ovnis, c'est qu'ils font dans leur tête le raccourci ovni égale engin extraterrestre. Donc, lorsqu'ils disent « les autorités nient l'existence des ovnis », il faudrait qu'ils précisent « les autorités nient l'existence ou les visites extraterrestres ».
Voilà.
Là, on est dans un autre univers, parce que c'est vrai que dans le cas du projet Blue Book, je reviens encore à celui-là, en 1970, quand il publie ses conclusions en disant « nous avons enquêté sur 12 618 observations, de ce nombre, 701 sont demeurées non identifiées », la seconde conclusion est que dans ces observations dites non identifiées, aucune d'entre elles ne nous permet de conclure à des visites extraterrestres.
Elle est là, la nuance.
Là, il y a une nuance. Les autorités ne nient pas l'existence des ovnis, mais elles n'ont pas trouvé suffisamment de preuves pour étayer l'hypothèse des visites extraterrestres. Donc, mais les ufologues aiment bien ramener ça à « les autorités nient l'existence des ovnis ». Ça fait bien. Le deuxième dogme sur lequel je me suis coltiné un peu avec les ufologues à l'époque, dans les années 90, je me définissais moi-même comme un ufologue, mais j'ai commencé à prendre du recul. Le deuxième dogme était « les autorités nous cachent la vérité ». Mais pour qu'ils nous cachent la vérité, il faudrait qu'ils la sachent déjà. Et qu'est-ce qui nous prouve que les autorités en savent plus que moi ou toi sur la question des ovnis? Si on regarde le congrès sur les ovnis, là, ben, quand il y a eu les auditions au congrès en mai dernier, on n'avait pas l'impression que les autorités savaient grand-chose. Hein? Ah, des pilotes ont vu ça, puis on ne sait pas trop ce que c'est. Ça peut être vite, pas vite. Ça peut venir de proche, pas proche. Il n'y a pas de l'air à savoir grand-chose. Et quand on dit les autorités nous cachent la réalité ou cachent quelque chose, c'est de croire que toutes les autorités du monde sont toutes d'accord avec le même principe. C'est-à-dire, imaginons, le phénomène des ovnis n'est pas un phénomène essentiellement américain. Quand on regarde la presse, on voit qu'il y a eu des observations d'ovnis en Angleterre, il y en a eu en France, il y en a eu au Japon, il y en a eu en Chine, il y en a eu partout, hein, à peu près dans tous les... Même en Papouasie-Nouvelle-Guinée, j'ai des observations d'ovnis en Papouasie-Nouvelle-Guinée. De croire que les autorités cachent la vérité, c'est croire qu'à un moment donné dans l'histoire des ovnis, on a réuni tous les dirigeants de tous les pays dans une salle, un centre Vidéotron à Québec. Et là, on a dit, comme ça, les Américains sont arrivés en avant, puis ont dit, nous autres, là, notre politique, c'est qu'on cache la vérité au public. Et les 100, parce qu'il y a 195 pays, là, en ce moment, au moment où on se pense, 195 pays ou territoires. Fait que, et les 195 leaders de tous les pays du monde ont dit, ah, j'allais dire un gros mot. Il y a oui, on adopte cette politique-là. Ça veut dire que là, tout le monde a levé les mains. La Russie a levé sa main. On dit, oh, nous autres, la politique des Américains, on aime ça. On lève notre main. Les Chinois ont levé leurs mains. L'Afghanistan a levé leur main. La Papouasie-Nouvelle-Guinée a levé sa main. Le Togo a levé sa main. Le Zimbabwe a levé sa main. Là, tu sais, t'as une minute. Il n'y a pas un de ces pays-là qui s'est dit, voyons donc, on est visité par des extraterrestres, c'est tellement une nouvelle incroyable, si fabuleuse, que l'humanité doit le savoir, c'est le plus grand événement de l'histoire de l'humanité. Non, tous les pays du monde et tout ce que ça implique comme gens, tu sais, t'as de la misère à garder un secret, quand il y a trois personnes qui sont au courant du secret, à moins bien sûr que deux d'entre elles soient déjà mortes. Mais c'est difficile de garder un secret. Alors là, on est en train de nous dire que tous les pays du monde se sont alignés sur les politiques américaines pour cacher les visites extraterrestres et que malgré les années écoulées, aucun d'entre eux n'a fait marche arrière et tous les gens impliqués dans ce grand secret ne disent jamais rien. Ça paraît pas vraisemblable. Mmh. Et pourtant, c'est le deuxième dogme de l'ufologie. Donc, si tu deviens ufologue, c'est comme un serment d'Hippocrate, faut que tu dises « j'accepte ça ».
Main sur le code d'honneur.
Ou tu sais, quand tu vas sur des sites Internet, on te dit « Oh, on va t'envoyer des cookies. Acceptes-tu les cookies? » Oui, j'accepte toutes les cookies. Ben, c'est ça. Ça, c'est des cookies. Il faut que tu acceptes ça. Et le troisième grand dogme de l'ufologie, puis là, je ne remets pas en question. Les gens voient des choses dans le ciel qu'on peut pas expliquer, puis je laisse la porte ouverte peut-être qu'il s'agit, dans certains cas, de visites extraterrestres. Je l'ignore. Mais je parle essentiellement des dogmes, hein, de ce qui régit les fondements de l'ufologie. Le troisième grand dogme, hein, j'appelle ça la Sainte Trinité, le troisième grand dogme, c'est les autorités discréditent les témoins et discréditent les ufologues. Si on regarde la littérature sur les ovnis ou si tu regardes la presse qui se consacre aux ovnis, écoute, les autorités ont pas besoin de les discréditer. Tu lis des titres, rappelle-toi, là, il y a deux semaines, on en avait parlé, Nick Pope qui dit « Des pigeons sont peut-être des drones à l'usage des extraterrestres ». Écoute, si tu es un représentant du gouvernement, tu te dis « Gars, j'ai pas besoin de les discréditer, là. Je pense qu'ils se discréditent eux-mêmes. » Tu sais, les pigeons qui sont devenus des drones à l'usage des extraterrestres. Donc, et tu vois souvent cette situation-là où, écoute, je te raconte ça. À un moment donné, j'assiste à une rencontre de gens qui s'intéressent aux ovnis, des ufologues, des purs et durs. Donc, je suis là, moi, je suis le méchant, tu sais, je suis là, le gars un peu sceptique.
T'as pas compris, c'est ça.
Moi, le gars qui comprend pas. Puis, à un moment donné, écoute, je suis là, puis les gens sont tout autour de la table, puis ça jase, puis c'est une franche camaraderie, hein, les gens racontent les histoires d'ovnis. Et là, à un moment donné, parmi le groupe, il y a un membre du groupe qui dit qu'elle s'intéresse au phénomène du chupacabra. Donc, le chupacabra, oui. On fait peut-être une émission là-dessus. C'est une espèce de créature qui est apparue au départ, au milieu des années 90, dans l'île de Porto Rico, qui ressemblait à une petite gargouille. Et là encore, avec les années, le phénomène s'est transformé d'une petite gargouille tout à fait fantastique. Elle est devenue une espèce de chien sans poil qu'on a pu observer dans le sud du Texas. Et aujourd'hui, on en a tué de ces chiens-là. Le premier, d'ailleurs, a été frappé par une voiture. Et la carcasse a été étudié, on a regardé la carcasse pour découvrir en fait que c'est un animal hybride entre le loup mexicain et le coyote américain.
Ouais, ouais,
donc il y a eu un bridage et certains de ces dans ce bridage là, un peu comme les chats sphinx, hein, les chats qui n'ont pas de poils, ben en fait c'est un gène défectueux qui fait qu'ils ont pas de poils.
Ah.
Donc dans le cas des chiens loups coyotes américains là, qui sont devenus les nouveaux chupacabras, ben certains d'entre eux ont cette déficience du gène et ils sont donc sans poils. Certains ont des poils. Il y a une maladie aussi qui s'appelle la gale canine qui fait que les animaux souffrent et perdent leurs poils. On dit gale canine, mais la gale se retrouve sur plein d'animaux. Puis ça peut être assez surprenant. Hein? Si tu as jamais vu un raton laveur, pas de poils, puis t'en vois un, tu peux penser que c'est une créature venue d'une autre planète. Là, parce qu'on n'est pas habitué à voir un raton laveur pas de poils. Ou un ours pas de poils, c'est vraiment très étrange.
Oui, tu pognes à deux minutes, là.
Oui, oui. Tu regardes ça. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Mais dans le cas de nos coyotes et loups mexicains, coyotes américains, donc dans certains cas, certains d'entre eux souffrent de la gale, mais dans d'autres cas, c'est une déficience d'un gène qui fait qu'ils n'ont pas de poils. Mais bref, je te reviens à la soirée ufologique. Donc, j'ai cette personne qui dit, elle n'est pas tellement loin de moi. Et elle dit, moi, je m'intéresse beaucoup au chupacabra. Puis là, elle raconte un peu le mythe du chupacabra, comment c'est apparu dans l'île de Porto Rico. Chupacabra, qui est un mot espagnol qui veut dire le suceur de chèvre.
Ouais, c'est ça, se nourrit de ça, hein.
C'est ça. Donc, au départ, les agriculteurs de l'île de Porto Rico disaient, ça s'attaque à nos animaux de ferme. Et principalement, c'est un animal un peu comme un vampire. Il exsanguine nos chèvres. Ou nos poulets, ils boivent leur sang, bon voilà. Puis c'est assez amusant parce que le chupacabra apparaît dans l'île de Porto Rico en 1995, mais à cause des médias qui vont couvrir l'événement et le début des communications n'est pas encore à l'ère des médias sociaux, mais on commence à voir apparaître des espèces de babillards électroniques. Donc l'information va fonctionner. Pourtant, 20 ans plus tôt, le même phénomène s'était produit dans l'île de Porto Rico où des animaux avaient été trouvés vidés de leur sang et la presse portoricaine avait parlé du vampire de Moca. On avait une petite communauté et des animaux avaient été retrouvés vidés de leur sang. Et disons, la presse locale avait parlé du vampire de Moca. Mais on parle ici d'une presse espagnole, donc de langue espagnole, donc elle ne va se répandre que dans des communautés hispanophones et principalement sur l'île de Porto Rico. Le phénomène du chupacabra est à peu près le même phénomène qui se reproduit. Donc, 20 ans après, des animaux sont retrouvés morts, vidés de leur sang. Éventuellement, on va déterminer que ce sont des chiens sauvages qui font ça. Mais à ce moment-là, il y a une espèce de frénésie qui s'empare des gens. On se met à croire à l'existence ou la présence de cette petite créature un peu mystérieuse. Et là, encore une fois, la presse espagnole s'en mêle. Là où il y aura une différence entre le chupacabra et le phénomène du vampire de Moca, c'est qu'une partie des phénomènes qui se produisent dans l'île de Porto Rico seront reproduits dans des magazines spécialisés sur les ovnis et les phénomènes étranges de langue anglophone. Donc là, on a un nouveau canal qu'on n'avait pas connu avec le vampire de Moca, une traduction de ces événements en anglais dans une presse spécialisée, mais quand même excessivement populaire. Et sur des babillards électroniques, on va retrouver également ces informations. Donc, le chupacabra va bénéficier d'une couverture médiatique que son prédécesseur, le vampire de Moca, n'avait pas connu. Quoi qu'il en soit, là, je le sais, j'ai fait encore un épouvantable détour, mais je reviens à ma soirée ufologique. Écoute, j'aime parler, j'ai tellement aimé cet univers-là, ça me passionne tellement, écoute. Et là, je suis à ma soirée ufologique, la jeune femme raconte ça, elle s'intéresse au chupacabra, puis elle nous dit comme ça, elle dit, il y a comme un cri de ralliement, le chupacabra a le cri de ralliement. Et là, écoute, elle se lève et nous émite le cri du chupacabra. Alors, là, je me suis dit, s'il y a un agent du gouvernement dans la salle, il doit se dire inutile de discréditer ces gens-là. On n'a pas besoin d'en faire plus, là. La coupe déborde.
OK.
Tu sais, non, je t'ai plus, la cour est pleine. Le petit cri du chupacabra, là, c'était, comme on dit, la cerise sur le sundae. Bref, tout ça pour te dire que très souvent, tu regardes l'attitude, les actions des ufologues les plus embrigadés, parce que les ufologues sont pas tous des illuminés, là, mais les ufologues les plus embrigadés véhiculent de telles croyances et ont des discours tellement déjantés que le gouvernement n'a vraiment pas besoin de les discréditer. Donc ça, c'est le troisième grand dogme de l'ufologie. Donc, le gouvernement nie l'existence des ovnis. Premier. Deuxième, le gouvernement nous cache la vérité des visites extraterrestres ou des preuves de leur existence. Et enfin, le troisième dogme, le gouvernement nous discrédite. Et donc, moi, quand j'ai commencé à remettre ces dogmes-là en cause, bien évidemment, je suis devenu l'ennemi numéro un de la communauté ufologique.
On ça a dû faire un porte. Drôle de souper, hein? Une fin de souper, Christian?
Oui, oui, écoute. moi, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je pourrais bien imiter, là? Tu sais, le cri de la mouche tsetse en période de rut. Mais effectivement, ça fait quand même très étrange. Mais tout ça pour te dire qu'au moment où j'ai commencé à remettre en question ces grands dogmes de l'ufologie, je ne faisais plus partie de la gang. Tu comprends? On me retirait mon écusson, mon étoile de shérif, là, on me l'enlevait pour me dire « va-t'en ». Et depuis, ben évidemment, même si je suis à la radio, et même si le sujet me passionne, et je te dirais que ça me manque, j'adorais ces réunions, j'adorais me retrouver avec des gens et parler de ces sujets-là qui sont passionnants. Aujourd'hui, je ne peux plus faire ça. On me ferme la porte. Quand j'arrive,
ah, okay.
Non, vous n'êtes pas ennemis ici, monsieur. T'sais, bon, ben tant pis. Mais bref, ce sont les grands dogmes de l'ufologie. Et évidemment, si on critique le phénomène des hommes en noir, on dit, ah, ben, OK, les hommes en noir, il y a peut-être d'autres explications que l'idée que le gouvernement essaie de dissimuler des preuves. Ben là, encore une fois, on va à l'encontre d'un des dogmes. Et ça risque de froisser beaucoup d'amateurs d'ovnis. Mais bref. C'est ça, c'est la réalité et c'est fascinant. Mais j'adore ce sujet-là. Je pense que ça s'entend. Ça, c'est, hein, quand j'en parle avec cœur parce que c'est, je trouve ça passionnant de voir toute cette... en fait, j'ai l'impression, il y a un auteur très populaire dans le domaine des ovnis qui s'appelle Jacques Vallée. Pour te le situer un peu, Jacques Vallée est un scientifique français qui vit aux États-Unis depuis les années 60. Il a côtoyé notamment le professeur Joseph Allen Hynek, qui était le conseiller scientifique de l'armée américaine pour la question des ovnis durant le fameux projet Blue Book dont je t'ai parlé là, depuis le début de l'émission.
Oui.
Donc, c'était le français qui était parmi les Américains puisqu'il s'intéressait à la question des ovnis. Et Jacques Vallée, c'est lui qui a inspiré le personnage du professeur Lacombe dans le film La rencontre du troisième type. Je ne sais pas si tu as vu ce film-là, un des grands chefs-d'œuvre de Steven Spielberg, mais quand on regarde ce film qui raconte l'histoire, l'arrivée des extraterrestres sur Terre, Il y a parmi les, on voit les gens du gouvernement là, qui s'efforcent de garder ça secret, et parmi tous ces acteurs et tous ces comédiens, évidemment tous américains, dont Richard Dreyfuss par exemple, il y a François Truffaut. Là, oui. Tu dis, ah, ça fait un peu étrange, François Truffaut qui est parmi les comédiens et qui est un Français parmi les Américains. Tu sais, il joue le rôle d'un scientifique français qui travaille main dans la main avec les Américains sur la question des ovnis. Or, ce personnage un peu curieux, atypique du scientifique français parmi les Américains, ben, s'est inspiré du personnage de Jacques Vallée, qui, comme je te dis, est un scientifique français, un astrophysicien français, spécialiste aussi de la statistique et des mathématiques, qui vit depuis les années 60 aux États-Unis et qui est considéré comme l'un des personnages les plus importants dans l'histoire des ovnis. Et Jacques Vallée avait dit, lorsqu'il parlait de la question des ovnis, il dit je pense que les ovnis, c'est plus complexe que simplement de réduire ça à la visite d'extraterrestres. J'ai l'impression que le phénomène des ovnis, ça nous permet de voir un mythe en création. Du folklore en création. Et ça, c'est rare qu'on a cette possibilité-là. Généralement, le folklore ou les mythes, on les découvre, mais après coup, hein, on découvre les mythes du 15e, du 13e siècle, les mythes de l'Antiquité. Mais être au milieu d'un mythe en formation et le phénomène des ovnis, nul doute qu'une grande partie de ce phénomène-là est essentiellement mythique, inspiré de la culture populaire.
Mais
c'est
l'univers,
quand même extraordinaire de voir ça.
Faut quand même se le donner. Cet univers-là, Christian, est rempli de mythes ancestraux mélangés de la modernité. Ça, on se promène beaucoup dans le temps, là, si on creuse.
Ben, en fait, il y a un auteur aussi qui avait parlé des ovnis en disant que ce sont des anges technologiques. Hein, c'est-à-dire que oui. Les gens, autrefois, on regardait le ciel et on voyait dans le ciel toutes sortes de merveilles. Hein. C'était des chars volants, c'était des dieux qui arrivaient, c'était des anges, des êtres fabuleux. Et aujourd'hui, ben, on tourne nos yeux vers le ciel et des gens voient des choses fantastiques, mais ce sont des anges modernes à bord de machines volantes. T'sais. Bon, certains diront que c'est une continuité du phénomène que dans l'Antiquité, les gens voyaient vraiment des ovnis, mais les décrivaient avec les mots de leur époque, alors qu'aujourd'hui, on est plus technologique, on est capable de mieux décrire des engins spatiaux. Ça, j'avoue que je suis pas certain. Hein, pour avoir une formation en histoire, puis avoir une grande spécialité dans l'histoire des religions, je peux t'assurer. Puis à un moment donné, on se fera aussi une émission. Or, qu'on en a des émissions à se faire, mais à un moment donné, on se fera une émission sur la déformation des mythes religieux. Hein.
Oui.
Dans l'Antiquité, par exemple, le fait de... Je te donne un que cet exemple-là. Lorsque, dans la Bible, le prophète Ézéchiel voit un char de feu, hein, il dit, bon, je lève les yeux vers le septentrion, je vois un char de feu, la gloire de Dieu, puis bon, un char ardent. Donc, il décrit ça avec moult détails, cette description fabuleuse. Et là, les amateurs d'OVNI disent, ben voilà, c'est l'arrivée d'un vaisseau spatial. Mais ça, c'est l'interprétation que tu veux donner, parce que en réalité, les historiens et les exégètes, qui sont des spécialistes dans le décodage des textes anciens, eux ne voient pas du tout un vaisseau spatial là-dedans. Il faut remettre ça dans son contexte. Le prophète dit « Je regarde et j'ai une vision ». Une vision, dit bien, c'est quelque chose, une illumination divine. C'est pas quelque chose qui se passe devant ses yeux. Là. Et là, il dit « Je vois un char de feu ». Pourquoi un char? Il faut savoir que dans l'Antiquité, qui a des chars? Les Grecs ont des chars, les Romains ont des chars, mais les Hébreux ont pas de chars. Hein? Les puissants ont des chars. Tu vas pas en guerre avec des gougounes. Tu vas en guerre avec un char.
Oui.
Donc, quand Ézéchiel voit un char, il dit, c'est comme l'annonciation d'une guerre. C'est une guerre contre les infidèles, contre les non-croyants. Et on est prêt à livrer cette bataille parce que Dieu arrive sur un char. Dieu arrive pas en gougoune, hein. Il arrive sur un char comme arrivent les Grecs, comme arrivent les Romains, comme arrivent les Égyptiens. Dans toutes les religions du monde, le feu incarne Dieu. Donc, quand Ézéchiel dit « Je vois un char de feu », c'est symbolique d'une guerre, hein, d'une lutte contre les impies, mais en même temps, c'est une lutte au nom de Dieu. Donc, tu vois, il y a tous des symboles dans cette vision-là qui seraient très réductionnistes de dire « Ah, ben, il voit une soucoupe volante.
Voilà. »
Non, c'est plus complexe que ça. Il faut vraiment décoder le langage des anciens et comprendre tout le symbolisme qu'il y a dans ces textes-là. Et quand on comprend ça, ben, on voit qu'on est très, très loin de nos visions d'OVNI d'aujourd'hui. Mais c'est toute une dynamique. Il y a même une série à Canal Historia, qui joue depuis des années maintenant, et en sont rendus à la 8e ou 9e saison, qui s'appelle « Nos ancêtres, les extraterrestres »,
oui,
où on fait un gros melting pot de ça. Et souvent, malheureusement, on exploite, c'est triste à dire, mais on exploite l'ignorance des téléspectateurs. Parce que ce que je te raconte là, c'est sûr qu'il y a plein de nos auditeurs ce soir qui sont pas au courant de ça, qui sont pas des spécialistes des religions, du décodage des textes anciens. Donc, ces gens-là, comme moi je l'ai fait, comme toi tu le fais, ou comme des millions d'autres le font, on s'assoit devant la télévision et on regarde des documentaires en espérant que l'information qui est véhiculée soit une information qualitative, informative, pédagogique. Mais bien souvent, l'information est divertissante. Et pour être divertissante, elle n'est pas toujours le reflet de la réalité. Puis en même temps, on n'a pas envie de donner un cours d'histoire aux gens qui sont devant leur téléviseur, tu comprends? Fait qu'on aime rêver, la télévision nous fait rêver, ces grands mythes-là nous font rêver, mais quand on gratte un peu, on découvre que derrière le vernis, il y a toute une interprétation qui est très différente de celle qu'on nous propose dans ces émissions-là.
Est-ce qu'on va s'en aller là-dessus pour le monde extraterrestre, le documentaire Netflix que tu nous proposes?
Oui, écoute, c'est ça. Oui, c'est ça. Je vais prendre parce que je vois que le temps file à toute vitesse. Encore une fois, écoute, je voulais, c'est ça, pour aller avant d'aller à la pause, je viens de dire, j'ai regardé cette semaine une série documentaire que j'ai trouvée très bonne, qui est sur Netflix, qui s'appelle Les Mondes Extraterrestres. C'est une série documentaire en 4 épisodes. Donc, c'est très informatif. On explore l'adaptation de la vie. Hein. C'est l'apparition de la vie, son adaptation et sa métamorphose. Donc, chaque épisode est consacré à une planète et elle nous montre, par exemple, la première planète est une planète désertique. On nous montre comment la vie aurait pu apparaître sur cette planète X ou Y et comment la vie se serait adaptée à des climats chauds, etc. Et la capacité d'adaptation de la vie. C'est vraiment une série très informative. Mon seul regret, c'est que dans le 4e épisode, il faut que je le dise, dans le 4e épisode, leur planète s'appelle Terra. Hein? Donc, c'est une planète comme la Terre. Donc, parce que les autres planètes sont très, très différentes de la Terre. Mais dans le 4e épisode, on nous présente une planète comme la Terre.
Et c'est là qu'on rêve.
Et l'on rêve. Et sur cette planète, bien sûr, il y a une civilisation intelligente qui s'est développée et qui a des milliers, sinon des millions d'années d'avance sur nous. Bon, ils vivent dans des espèces de stations spatiales autour de la planète. Le seul défaut que j'ai trouvé dans ce documentaire-là, c'est si on regarde dans la lignée des autres documentaires, sans nous l'expliquer, on assume que la vie intelligente apparaît forcément de la vie. Or, ça, c'est très incertain. La vie pourrait évoluer pendant des milliards d'années sans qu'on voit apparaître de la vie intelligente. En fait, c'est d'ailleurs une grande discussion au sein des exobiologistes, des astrophysiciens. La vie apparaît assez aisément. Les briques qui composent la vie, on a pu les observer sur Mars, on a pu les observer sur des lunes de Jupiter ou des lunes de Saturne. On a même trouvé ces acides aminés, donc ces fameuses briques qui forment la vie. On les a même trouvées dans des météorites qui sont tombées sur Terre, laissant supposer que peut-être la vie sur Terre a été apportée des étoiles par une météorite. Mais si on est capable d'identifier les briques qui forment la vie, rien ne permet de déterminer comment l'intelligence apparaît. Tu sais, si tu prends un poisson puis tu le mets dans son bocal d'eau, là, ben même s'il vivrait pendant 20 millions d'années, là, il va rester un poisson.
C'est un peu le dilemme qu'on a actuellement avec les rovers qui sont sur Mars.
Voilà.
On trouve des formes, des indices, mais rien de...
Rien de concret. Et ça, c'est une grande problématique. Au moment où on se parle, on ne sait pas dans quelle mesure la vie intelligente est-elle commune. Il peut exister dans l'univers des milliards, des centaines de milliards de planètes sur lesquelles il y a de la vie, mais il n'y en a peut-être qu'une seule où la vie intelligente est apparue, et ce serait sur la Terre.
Et c'est la question, c'est celle-là?
C'est une très, très grande question. Et dans ce documentaire-là, on passe rapidement là-dessus. On est passé d'une planète où il y avait comme des espèces de micro-organismes, et tout d'un coup, l'épisode 4, voici Terra, une belle planète avec une belle civilisation intelligente. Mais il est apparu comment cette intelligence? Et on l'ignore. Et c'est peut-être la raison pourquoi l'univers est si silencieux. Hein, depuis les années 60, on écoute l'univers avec des radiotélescopes dans l'espoir de capter des signaux radio qui viendraient de civilisations extraterrestres. Et jusqu'à maintenant, on n'a rien capté. Peut-être parce que les extraterrestres sont pas intéressés de communiquer avec nous. Peut-être que la vie, l'intelligence où on utilise des ondes électromagnétiques comme on écoute est peut-être trop courte dans l'histoire des civilisations pour pouvoir espérer capter un signal semblable. Ou peut-être qu'on est la seule civilisation intelligente de l'univers. On l'ignore. Sur son pal à la pause.
Oui, on va faire entendre la bande-annonce du documentaire dont tu parlais, Christian.
Les mondes extraterrestres. La bande-annonce, je le rappelle, elle est en anglais, bien sûr, mais le documentaire est en français pour les auditeurs.
Voilà, de retour dans quelques minutes dans Radio X-Files.
There are countless planets throughout the universe. Astronomers think it's only a matter of time before some alien life forms are discovered. By applying the laws of life on Earth, it's possible to imagine what could live on alien worlds.
When a bird thinks that he's got the advantage, that's when the wings will get tucked in.
How might life adapt on a different world? Perhaps there's an alien civilization already headed for Earth. What sort of alien life might exist in the vastness of space?
Radio X-Files avec Christian Page et Camille.
Radio X.
Ça nous met dans l'ambiance. 19h42 de retour dans Radio X-Files. C'est la musique de Men in Black film. Ça a commencé en quelle année, les Men in Black, Christian? Début 2000?
Ben, en fait, oui, la série des Men in Black, ça a commencé, je crois, c'est aux alentours de l'an 2000. Mais pourtant, le phénomène, lui, il perdure dans l'univers des ovnis depuis les années 50. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce phénomène-là, donc si on parle de manière générale aux amateurs d'ovnis, ceux qui se définissent comme des ufologues, il y a une croyance très persistante voulant que des hommes, tout de noir vêtus, généralement par groupe de trois, se déplaçant dans des vieilles voitures anciennes, souvent d'une autre époque, hein, même dans les années 70, les gens disent « J'ai vu ces gens-là, ils se déplaçaient dans une voiture des années 50, par exemple. »
Ah, okay.
Donc, des gens qui se... Généralement par groupe de trois, tout de noir vêtus, se déplaçant dans des voitures d'une époque passée, et donc qui viendraient chercher des preuves auprès des témoins, voire intimider les témoins pour ne pas qu'ils parlent de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont colligé comme information sur le phénomène des ovnis. Or, tout ça apparaît de manière assez anecdotique, hein. On est en 1952. C'est le début de l'histoire populaire des ovnis. Le phénomène a commencé en 1947, mais en 1952, il est connu de tous. Donc, c'est un phénomène, je te dirais, qui est devenu domestique. Les journaux en parlent, la télévision en parle. Okay. On a des sketchs à la radio qui s'amusent à parler des soucoupes volantes. En fait, on est au tout début de l'âge d'or des soucoupes volantes. C'est le sujet de l'heure. Et on voit apparaître un peu partout, d'abord aux États-Unis, ensuite en Angleterre, surtout d'abord dans les pays anglophones, parce que la littérature et les publications sont surtout anglophones. Mais après, on va voir ça apparaître en Espagne, en France, dans des pays d'autres langues que l'anglais. On voit apparaître des groupes qui vont commencer à s'intéresser à la question des ovnis. Ils se forment des petites communautés. Hein, au Québec, il faudra attendre littéralement au milieu des années 60 pour voir un premier groupe apparaître. D'ailleurs, à Québec, le groupe est apparu, s'appelait la SRPM, la Société de recherche sur les phénomènes mystérieux.
Oh,
c'était dirigé par un personnage excessivement coloré que les auditeurs de Radio X connaissent sûrement, qui s'appelait Jean Cazot, qui vit maintenant du côté d'Ottawa.
Monsieur Cazot était là-dedans. Ouais.
Jean Cazot, en 1966, donc, va créer le premier groupe, hein, vraiment là, la première communauté de gens, un petit groupe de gens qui s'intéressent à cette question des ovnis. Et éventuellement, il sera suivi par d'autres groupes. Le groupe le plus plus importants peut-être que le Québec a connu dans cette belle époque. On est dans les années 70, un groupe qui s'appelait UFO Québec, qui à un moment donné était devenu la référence. Dès qu'une histoire d'OVNI se passait au Québec, on appelait les représentants de UFO Québec. C'était la grosse affaire. Mais donc, en 1952, alors qu'un peu partout dans les pays anglophones, on voit apparaître des groupes qui se forment, des groupes d'ufologues pour enquêter sur la question des soucoupes volantes, il y a un type qui s'appelle Albert Bender, qui est un résident du Connecticut, qui décide de former lui aussi son groupe. Et les amateurs d'OVNI ne lésinent jamais sur les acronymes fantastiques. Donc, son groupe s'appelle l'International Flying Saucer Bureau. Hein, j'aime bien le international parce que bien souvent, les groupes ufologiques ont souvent des noms très ronflants. T'sais. Le groupe international d'enquête sur les ovnis, mais c'est trois gars en bottines de caoutchouc dans un petit sous-sol aquatico. T'sais. Mais bon, en 1952, notre Albert Bender fonde l'International Flying Saucer Bureau au Connecticut. Et le groupe connaît une forte expansion. Hein? Il publie un petit fanzine, des gens s'intéressent à ça, un newsletter, les gens adhèrent au groupe. Et soudain, en 1953, donc un an après sa formation, alors que le groupe est en plein essor, Albert Bender ferme le bureau. Il dit « C'est terminé, merci, bonsoir, je tire la plug ». Évidemment, ça peut paraître étrange qu'un groupe qui soit en pleine floraison de cette manière-là, soudainement décide de retirer ses billes. Et évidemment, les gens qui ont adhéré au groupe posent des questions, lui envoient des lettres. Les médias sociaux n'existent pas. Ouais. Il n'y a pas de courriel non plus. Donc, on travaille beaucoup avec le stylo et le timbre. Donc, on envoie des lettres à Bender. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi fermer le bureau? Ça allait bien. Et puis, en 1956, donc 3 ans après la fin du bureau, il va dîner avec un type qui s'appelle Gray Barker. Ça, c'est un personnage excessivement coloré. Gray Barker, c'est un personnage un peu claudiquant qui a été victime d'un accident de voiture. Et là, c'est un type qui cherche... On est presque dans le monde Barnum et Bailey, le monde de la foire et du fantastique. Et ce Gray Barker, il est un entrepreneur extraordinaire. Là où il y a de l'argent à faire, là où il peut faire rêver les gens, Gray Barker est là. Donc, il rencontre ce Albert Bender, qui est un bon ami à lui. Il lui dit, écoute, il y a 3 ans, tu as fermé ton bureau d'enquête de ces ovnis. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-il arrivé? Et Gray Barker n'obtient pas la réponse qu'il veut. Hein? Bender se montre très discret, dit, à un moment donné, je te le dirai, mais pas pour l'instant. Et Gray Barker en vient à conclure que probablement, Albert Bender a été menacé par des gens qui ont voulu le faire taire. Parce que, bon, Bender lui dit au mieux, j'ai reçu la visite de gens tout de noir vêtus, puis ils m'ont dit, les ovnis, laisse tomber. Okay. À partir de cette information, Gray Barker va publier un ouvrage qui sort en 1956 qui s'appelle « They knew too much about flying saucers ». Ils en savaient trop sur les soucoupes volantes. Un ouvrage, d'ailleurs, qui a été traduit en français il y a quelques années seulement. Donc, dans cet ouvrage, Gray Barker, qui en sait pas plus que ça sur l'histoire d'Albert Bender, décide de former son propre scénario. Les hommes en noir qui ont visité mon ami Albert Bender devaient être des agents du gouvernement en quête de preuves, puis voulaient le faire taire. Et là, il imagine un énorme scénario. Et éventuellement, il doit mettre des noms sur ce scénario. Et ces noms, ben, il dit, ça doit être la CIA, l'armée de l'air américaine, qui à ce moment-là enquête sur la question des ovnis à travers le projet Blue Book, ou encore le FBI. Ben, crois-le ou non, en 1959, Edgar Hoover, là on est vraiment dans un univers de science-fiction, de soucoupes volantes, de petits hommes verts, en 1959, Edgar Hoover, le directeur du FBI, le fondateur et directeur du FBI, demande à ses hommes de se procurer le livre de Gray Barker, « They knew too much about flying saucers », parce qu'il sent qu'on accuse son bureau, on accuse ses hommes. Hein? Y a-tu de mes hommes ici qui s'habillent en noir, qui vont voir des témoins pour leur voler des photos, pour les intimider? Sur des heures de job. Donc, crois-le, ça paraît incroyable, mais on a des notes dans les archives nationales américaines, des notes où Edgar Hoover exprime ouvertement son inquiétude de savoir que certains de ses agents pourraient éventuellement aller voir des témoins d'OVNI, les menacer, les intimider. Donc, il veut savoir ce qu'il en est autour de ça. et il va faire mener une enquête à l'interne, une enquête qui finalement ne mènera nulle part parce qu'on ne trouvera pas de coupable. Et Hoover va conclure que si des hommes en noir existent, ben ce ne sont certainement pas des agents du FBI. Mais le suspense tire à sa fin. En 1962, Albert Bender, celui-là même qui a créé son International Flying Saucer Bureau puis qui a tiré la plug un an après, donc en 1962, 9 ans après la fermeture du bureau, alors que tout le monde spécule sur l'identité de ces mystérieux hommes en noir qu'il a laissé présager, qu'il l'avait visité, qu'il l'avait peut-être pas vraiment intimidé, mais demandé de laisser tomber la question des ovnis, Albert Bender décide de faire sortir le chat du sac. Et là, il raconte, il dit « J'étais au cinéma. Ces trois hommes en noir se sont approchés de moi, ont commencé à me parler. C'était des extraterrestres. Ils vivaient dans une base quelque part en Antarctique. Et là, il dit qu'il a voyagé, qu'il est allé en Antarctique, il a côtoyé ces extraterrestres-là. Et quand tu lis son livre, hein, il a écrit un ouvrage qui s'appelle « Flying Saucers and the Tree Man » dans lequel il raconte toute son aventure. Écoute, on est entre la science-fiction, le fantasme et l'érotisme.
Oh.
Parce qu'il n'y a pas que des hommes en noir. Il y a des madames en noir.
Okay.
Et donc, Bender raconte toute cette histoire-là. Écoute, c'est complètement déjanté. Mais on voit ici les deux mythes qui vont se mêler. D'un côté, dès les années 50, on a Gray Barker qui suspecte que les hommes en noir pourraient être des agents à la solde du gouvernement. On a la version d'Albert Bender qui dit « Non, non, ce sont des extraterrestres qui venaient de l'Antarctique. » Et aujourd'hui, quand on parle des hommes en noir, on a les deux versions. C'est-à-dire que plein d'ufologues, quand je dis plein d'ufologues, c'est la culture même de l'ufologie. Quand on parle des hommes en noir, il y a comme une espèce de flottement. Les gens disent « Ah, ça pourrait être des agents à la solde du gouvernement. » Ou peut-être des extraterrestres qui ont pris forme humaine, qui rencontrent les témoins pour les faire taire. Donc, on voit...
Ça croise un peu les reptiliens, hein?
Voilà, donc on a comme deux mythes qui étaient... ou deux légendes qui étaient un peu séparées et qui se sont fusionnées, qui se sont mixées pour créer un tout. Mais le phénomène perdure et il continue encore aujourd'hui d'alimenter les discussions dans le domaine des ovnis. Et ça a pris une telle ampleur que, crois-le ou non, en 1967, donc on est 8 ans après l'enquête menée par Edgar Hoover, puis là Edgar Hoover lui a dit « c'est pas nos agents, c'est pas des agents du FBI, c'est peut-être les agents de l'armée ou c'est peut-être la CIA ». Ben en 1967, l'US Air Force, l'armée de l'air américaine, qui est impliquée dans l'enquête sur les ovnis avec son fameux projet Blue Book, émet une note, crois-le ou non, je lis cette note dans mes archives, une note qui dit « attention, il y aurait apparemment des gens qui s'habillent en noir, qui se font passer pour des agents de l'armée, qui vont rencontrer des témoins, qui leur volent des photos, qui essaient de les intimider. Mais là, tu dis, écoute, c'est le monde à l'envers. Donc, on voit à quel point cette histoire-là se répand et à quel point, à un moment donné, les autorités se sentent directement visées. D'un côté, le FBI au départ avec l'implication d'Edgar Hoover, ensuite l'armée avec cette fameuse note circulaire. Et aujourd'hui, avec le recul, si tu me demandes ce que moi j'en pense de ces hommes en noir, je trouve que c'est un mythe extraordinaire. Hein? Ces hommes, tout de noir vêtus, chapeau noir, lunettes fumées, cravate, chemise blanche, qui se déplacent dans des voitures anciennes. C'est fantastique, ça fait rêver. Mais en réalité, je pense que le mythe des hommes en noir tire sa source d'une déformation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où dans la culture ufologique, on a vu apparaître le spectre des hommes en noir, tout devient propice à des visites d'hommes en noir. Donc, dans les années 50 ou les années 60, alors que, par exemple, le projet Blue Book enquêtait sur la question des ovnis, il est bien possible que des agents de l'armée de l'air américaine aient rencontré des témoins. Ils se sont pas fait passer pour des hommes en noir, ils sont probablement arrivés avec leur uniforme de l'armée. Mais lorsque les témoins ont raconté leur histoire, les ufologues l'ont récupéré et peu à peu cette visite d'un militaire en costume de l'US Air Force est devenu un homme en noir. Tu comprends?
Ouais.
Donc, peu à peu, là, on voit dans la déformation, probablement que des gens ont été visités par des agents du gouvernement, des agents de l'armée de l'air américaine, par exemple. Ils ont pu être visités aussi par des policiers, hein, parce que des gens ont vu des ovnis, ils ont appelé leur service de police locale, ils ont pu être visités par des policiers. Mais peu à peu, ces histoires-là se sont déformées avec le temps et la rencontre entre le témoin et l'agent de l'armée de l'air américaine est devenue une rencontre avec un mystérieux homme en noir. Et je pense, pour avoir assisté moi-même à de très nombreuses rencontres sur les ovnis un peu partout à travers le monde, les ufologues ont pu jouer un rôle là-dedans. Parce que les ufologues aiment souvent se donner des airs. Hein? Bon, et si on se replace, par exemple, dans les années 50 et 60, combien d'entre eux ont pu s'habiller, par exemple, avec un trench coat, avec des lunettes fumées, ressembler un peu à Humphrey Bogart? Et là, ils se présentaient chez les témoins, puis ils sortaient des cartes avec des titres ronflants. L'International Flying Saucer Club. Et ces gens-là, et on le voit même encore aujourd'hui, les ufologues, souvent, sont très protecteurs de leurs histoires. Ils vont rencontrer des témoins, ils veulent l'exclusivité de l'histoire. OK, on enquête sur votre histoire, on veut voir vos photos, on prend votre témoin, mais n'en parlez pas à d'autres. Et comment de fois des ufologues ont pu rencontrer des gens disant « OK, on enquête sur votre histoire, mais n'en parlez pas à d'autres. » Et c'est devenu le spectre de « les hommes en noir nous menacent en nous disant « ne parlez pas de votre histoire. » Tu comprends comment on déforme tout ça à partir simplement peut-être de la visite d'un ufologue ou simplement de la visite d'un agent du gouvernement qui à l'époque était mandaté pour enquêter sur la question des ovnis.
Il me semble donc, qu'à l'époque même, Christian, là, ça, on parle un peu de mode ensemble, être habillé propre versus être habillé en noir, me semble que ça allait avec. Hein,
fait mais oui, bien sûr.
Au moins, vraiment, que tu étais bien habillé, tu étais suspicieux.
Oh. Oui, oui. Les hommes en noir, c'est le stéréotype de l'homme des années 50.
C'est ça.
Hein, tu regardes dans les magazines de mode, les hommes des années 50, c'était le complet veston, la cravate, le chapeau mou à la Frank Sinatra, lunettes fumées.
Le gel. Donc,
Ah oui, c'est le type parfait de l'homme en noir. Et donc, les gens, après ça, quand ils racontent leur histoire, 2 ans, 3 ans, 5 ans après, ben peut-être que finalement, l'ufologue s'était clairement présenté comme un ufologue d'une association X. Probablement qu'il peut-être dit au témoin, je vais prendre vos photos, vos documents, mais n'en parlez pas à d'autres parce que on veut l'exclusivité de votre histoire. Et quand ces témoins-là, 2, 3, 4 ou 5 ans après, ont raconté leur histoire ou ont raconté encore et encore leur histoire, ben l'ufologue était devenu un homme en noir et le spectre, le fait d'avoir dit ne parlez pas de votre histoire à personne d'autre, ce qui était simplement une volonté d'avoir l'exclusivité de l'histoire, est devenu soudainement une espèce de menace d'intimidation. Ouais,
ça fait un réflexe journalistique pareil. Moi, je soupçonne 2, 3 journalistes dans la gang.
Quel mythe fabuleux. Moi, je te dirais que dans le domaine des ovnis, l'un de mes mythes favoris, c'est celui des hommes en noir.
Ben oui.
Quelle histoire extraordinaire de ces hommes qui se déplacent, intimident des témoins, font disparaître des trucs. Et il y a toute une littérature là, qui a été construite là-dessus par les amateurs d'ovnis. On a même imaginé des organisations secrètes à l'intérieur du gouvernement. Donc, si c'est pas l'FBI, si c'est pas la CIA, si c'est pas la NSA, il doit y avoir autre chose. Alors là, on a imaginé un groupe ultra secret qui porterait le nom de MJ-12, Majestic 12, 12 hommes qui seraient au courant de toute l'histoire des ovnis. Et d'ailleurs, c'est un peu la trame de fond qu'on retrouve dans la série des X-Files. Je ne sais pas si tu as regardé cette série des années 90, mais dans la série X-Files, deux agents du FBI, les agents Mulder et Scully, sont continuellement aux prises avec une poignée d'individus au sein du gouvernement qui tentent de dissimuler l'information sur les ovnis. On ne le nomme jamais vraiment, ce groupe-là, mais dans la littérature sur les ovnis, ce groupe-là a une réalité de papier, une réalité littéraire, et cette réalité littéraire les appelle le groupe du Majestic 12. Donc, quelle histoire fantastique. Mais c'est comme ça que l'histoire des hommes en noir est apparue dans la littérature. D'abord, l'ouverture de ce bureau, l'International Flying Saucer Bureau par Albert Bender, sa fermeture un an plus tard, et puis le livre de Gray Barker qui proposait comme solution le FBI, la CIA ou d'autres agences de renseignement. Et enfin, l'histoire de Bender racontée, comme on le dit, par la bouche du cheval lui-même, où il dit « Non, ce sont des extraterrestres qui vivent en Antarctique, qui sont venus me voir et qui m'ont dit de ne plus parler des ovnis. »
Et Christian, gros merci encore. Le temps a filé beaucoup trop vite.
Ah oui, écoute, j'avais tellement... J'avais plein de notes encore sur ma fête à raconter des histoires de mon loin. J'en ai même vécu moi-même. Écoute, mais ça sera pour une autre fois.
Effectivement, parce que la saison ne fait que commencer. Oui, on a encore plein d'autres soirs thématiques et demain, on se dirige dans l'univers des fantômes.
Oui, le paranormal. Et demain, je vais te parler de l'un des plus célèbres poltergeists de toute l'histoire de la parapsychologie.
Super, j'ai déjà hâte. Je te souhaite une excellente fin de soirée.
Toi aussi. À demain.
Aux auditeurs également. À demain. Le Spacecast s'en vient dans les prochaines secondes à Radio X.